ceci est une conversation avec Arthur Keller qui revient dans Sismic 6 ans après son premier passage. Arthur est spécialisé dans l'identification et la caractérisation des vulnérabilités des systèmes complexes. Il s'intéresse au métabolisme des sociétés humaines et évalue les risques de délitement, voire d'effondrement. Il travaille aussi sur les questions d'alerte et de résilience. Ce n'est jamais vraiment de tout repos d'écouter Arthur s'exprimer sur les crises en cours et à venir, et sur notre incapacité à bien les comprendre et les anticiper. Il met les pieds dans le plat, comme on dit. Il ne ménage pas son auditoire, et cette manière de faire est pour lui indispensable. Il nous met face à notre déni collectif et parfois individuel, et nous invite à revoir en profondeur des stratégies qui, selon lui, non seulement ne marchent pas, mais peuvent même être contre-productives dans le sens où elles nous donnent l'illusion que nous prenons le taureau par les cornes, alors que nous sommes en fait à côté de la plaque. Ça gratte un peu, ça peut faire parfois même un peu peur, mais la lucidité est rarement confortable. Je suis Julien Levorex, Sismic est une enquête sur les grands enjeux et sur les mécaniques de notre époque. Je vous invite comme toujours à faire preuve d'esprit critique, à ne pas forcément prendre tout ce qui est dit pour argent comptant et à creuser par vous-même les sources. Ouvrez les oreilles, suspendez un temps votre jugement, pensez par vous-même, mais aussi contre vous-même. Et je vous invite à méditer sur cette phrase de Donella Meadows. La ressource la plus rare n'est ni le pétrole, ni le minerai, ni l'air pur, ni le capital, ni le travail, ni la technologie. C'est notre capacité à nous écouter, à apprendre les uns des autres et à rechercher la vérité plutôt qu'à avoir raison. Bonne écoute.
Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
Bienvenue sur Sismic.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre.
Bonjour Arthur.
Bonjour Julien.
Comment ça va?
Ça dépend des jours, mais globalement, ça va. Non, mais ça va. On fait tenir. Enfin, c'est pas une question que je me pose en réalité. Okay. Chaque journée est une journée avec un objectif et j'essaie de le tenir. Voilà.
Très bien. Bon, on pourra revenir là-dessus à la fin, en mode un peu plus perso, puisque c'est notre deuxième conversation dans Sismic. La première, je crois que c'était en 2017.
7 ou 8, non. Je sais plus.
2018, ouais, le podcast est même pas aussi vieux que ça, je sais plus.
Je pense que
une
c'est
une des premières. Voilà, l'épisode 13.
Avant que tu ne commences, ouais. Je suis ravi de revenir d'une part, merci pour l'invitation, et je te félicite pour le travail justement accompli depuis maintenant 6 ans ou 7 ans.
Ouais. Merci.
Gros boulot et de grosse qualité. Bravo à toi.
Ben merci. Écoute, j'essaie de tenir tous les 15 jours à peu près. Jamais fait un projet aussi long. Est-ce que quand même tu peux te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, qui te découvriraient, présenter brièvement qu'est-ce que tu fais, qui es-tu?
Oui, d'accord, pas de problème. Je m'appelle Arthur Keller. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que je l'ai pas toujours été. Je suis un spécialiste à la fois des risques systémiques. Ce sont des risques, en l'occurrence, qui jouent sur les sociétés humaines, qui pèsent sur les sociétés humaines et qui menacent la stabilité de nos modèles sociaux. Voilà. Donc, c'est pas juste des grosses crises potentiellement demain, mais c'est des remises en question du modèle. Et derrière, l'autre spécialisation, l'autre spécialité, c'est qu'est-ce qu'on fait, justement, face à ça? Comment on s'y prépare?
OK. Alors, donc, c'est la deuxième fois, et la première fois, on avait parlé de ta description de cette crise systémique actuelle, celle de l'écologique, des ressources, du climat, enfin presque de la civilisation en fait, mais qui fait qu'on est en train de détériorer ce que moi j'ai appelé le terrain de jeu, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est le vivant, la planète, etc. Alors, je vous invite à écouter le premier épisode si vous voulez tous les détails, mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup qui le font pas. De commencer par résumer en quelques mots ce mouvement qui se trame là au niveau planétaire. De quoi on parle? Est-ce que c'est la nature qui évolue, qui nous menace? Est-ce que c'est autre chose? Voilà.
Oui, alors précisément, non. Enfin oui, mais ça c'est un effet de bord. On dit souvent que l'humanité est confrontée à une crise écologique. Notamment, on parle beaucoup de la crise climatique. Mais c'est faux tout ça. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. Et c'est pas juste pour faire un bon mot, c'est fondamentalement ça qui se passe. Donc les modèles de société dans lesquels nous vivons aujourd'hui ont des impacts majeurs à différents niveaux. Et globalement, comment ça se passe? Ça se passe que moi je décris ça comme ça. Je décris que notre civilisation est une méga machine qui convertit la nature en déchets, Donc, en amont, on prélève des ressources. Alors, ça va être des ressources non renouvelables pour certaines, celles qu'on tire de la lithosphère. Et là, ben, on épuise des stocks, hein, grosso modo, pour schématiser. Derrière, on peut éventuellement recycler plus ou moins bien. Ensuite, on a d'autres types de ressources qui sont des ressources renouvelables, qu'on tire à partir de la biosphère. Et ces ressources-là, ben, de plus en plus aujourd'hui sur Terre, on les prélève à un rythme qui est supérieur à leur taux de renouvellement. Donc, c'est pas très durable tout ça. Ensuite, ces ressources, on les transforme avec de l'énergie en biens, en services, en bouffe, en infrastructures, en tout ce que tu veux qui constitue à la fois les sociétés et les activités humaines. Voilà. Et au passage, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on transforme la nature, on l'anthropise et on détruit une partie de la nature. Bon, ben, il se trouve aujourd'hui qu'on transforme plus vite que la capacité de la nature à s'adapter et on détruit plus vite que la capacité de la nature à se réparer. Et en aval, on génère des déchets, des pollutions. Alors, il y a certains rebouclages, hein, certains recyclages, mais globalement, c'est un flux qui est massivement linéaire. Et les déchets et les pollutions, aujourd'hui, eh ben, on les génère plus vite que la capacité des systèmes naturels à les réintégrer dans des cycles naturels, donc à les absorber. Et donc, ça s'accumule, et les polluants s'accumulent. Voilà. Et donc, globalement, c'est ça la nature du problème, parce qu'on est dans un système, dans des modèles de société qui sont productivistes, slash consuméristes, slash matérialistes, slash capitalistes d'accumulation, slash tout ce que tu veux. Et cette accumulation matérielle et cette importance d'avoir des flux matériels qui augmentent en permanence parce qu'on recherche la croissance économique et qu'il n'y a pas, au niveau global, il n'y a pas de décorrélation et pas de découplage absolu entre la croissance économique et les flux d'énergie et de matière, et ben ça implique nécessairement en amont un extractivisme accru, donc on extrait de plus en plus de ressources, et en aval un pollutionnisme, alors ça n'existe pas, hein, c'est un néologisme, un pollutionnisme accru également. Voilà, donc c'est tout ce modèle de société qui ne convient pas. Okay. Est-ce que je dois aller beaucoup plus loin?
Non, on va développer différents aspects, mais c'est bien de reposer ça. Alors je te propose de suivre une espèce de déroulé, hein, plus, de manière plus ou moins linéaire, qui est sur la base d'une démonstration, un peu le résumé d'une conversation qu'on a eue pour préparer cette conversation.
Ok.
Pour préparer cet épisode. Alors, un, le problème est systémique, on va un peu développer. Deux, il n'y aura pas changement de trajectoire, en gros, changeant le système. Trois, un problème, c'est que c'est compliqué de changer le système. Donc, quatre, on réfléchit à créer un autre système à côté, mais on va voir aussi que c'est compliqué. Donc, on risque de subir des chocs, des bascules, puisqu'à un moment donné, on se dit que ce système-là ne pourra pas continuer éternellement, et donc faut préparer ça. Alors on va essayer de dérouler un peu tout ça, voilà. C'est un peu spoiler en introduction.
Effectivement, c'est le résumé le plus condensé qu'on puisse faire de toute ma pensée, qui évidemment laisse de côté plein de choses, mais surtout qui est, c'est un peu violent d'asséner ça dès le départ, parce que faut expliquer pourquoi.
Bah c'est ce qu'on va faire, tout ça. C'est l'appetizer, comme on dit, c'est l'entrée.
Voilà.
Ça, au moins, on sait de quoi on va parler. Alors, l'aspect systémique, je voudrais qu'on continue là-dessus, puisque quand on t'écoute, quand on discute avec toi, tu nous dis qu'il y a un malentendu, finalement, sur la nature du problème. Et c'est aussi ce que je constate moi-même souvent, c'est de dire qu'on essaie de trouver des solutions avant d'avoir vraiment pris le temps de s'accorder sur un diagnostic. Et que dès qu'on creuse sur les problématiques, ne serait-ce que, par exemple, climatiques, on voit que les gens sont pas vraiment d'accord sur ce qui se passe. Est-ce que le GIEC a raison? Est-ce que le GIEC a pas raison? Est-ce qu'il y a un lien avec l'économie? Est-ce qu'il y a pas un lien avec l'économie? Est-ce que c'est que le climat, etc. Et donc, on oublie trop souvent que c'est un problème beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc, on se met sur le diagnostic. Est-ce que tu peux m'expliquer, ça, en fait, ce que tu observes et pourquoi on se plante et pourquoi c'est un problème?
Alors effectivement, oui, on se plante. C'est un peu abrupt. On se dit pourquoi, à quelle heure on devrait l'écouter, sachant qu'il y a des grands, grands spécialistes, des grands scientifiques qui sont extrêmement compétents et certains ont des prix Nobel. Ne me dire que tous ils se trompent. Bah en fait, le problème c'est pas l'expertise des gens. Il y a des gens qui sont effectivement des grands, grands, grands spécialistes, des grands experts, des grands scientifiques. Bravo, formidable. Le problème n'est pas là et je remets pas ça en question. Le problème, c'est la manière dont notre société a organisé les expertises entre elles, les a catégorisées, les a classifiées, les a silotées. Donc, dès l'école, il y a des matières. Ensuite, tu te spécialises à l'université. Quand tu vas bosser, chacun a sa fiche de poste et dans une spécialisation. Il y a quelques cas très, très rares où c'est pas comme ça que ça se passe. Mais enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu regardes comment les décisions politiques sont prises, tu vois effectivement aussi que tu as des découpages en territoires. Tu vois que tu as des découpages en responsabilités, tu as des ministères différents. Enfin bref, partout dans toute la, même dans les médias, tu as des émissions où tu as des médias spécialisés, dans les médias généralistes, tu as des émissions spécialisées. Lorsque l'on va faire une émission, on va faire une émission pas généraliste, on fait une émission sur un sujet et on fait venir un expert du sujet. Et puis la semaine suivante, on aura une autre émission sur un autre sujet avec d'autres experts de l'autre sujet, etc. Et on silote comme cela. Alors ce qui se passe, c'est que chacun est extrêmement compétent dans son silo, mais que au global, on n'a pas la vision juste des enjeux. Et ça, c'est vraiment typiquement là. C'est typiquement, toi qui as vécu en Asie, Julien, peut-être que tu connais ça de là-bas aussi, parce que c'est à la base une histoire qui est asiatique. Si Wikipédia ne ment pas, ça vient d'Inde, mais c'est une très très vieille histoire qui a plusieurs milliers d'années, celle des aveugles et des éléphants, tu connais ? C'est une parabole, les aveugles et l'éléphant. Bon, alors, je vais la simplifier.
Ah oui, parce dans la pièce où chacun... Voilà, vas-y, je te laisse dérouler. Je vois laquelle c'est.
Alors, c'est pas l'Elephant in the Room, nécessairement. Hein. Ça, c'est après. Mais globalement, enfin, moi, la version que je connais est la suivante. Tu as des aveugles qui vivent dans un village et un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans le village avec un éléphant. Et les aveugles se disent « Ah, un éléphant, on en a beaucoup entendu parler. On sait que c'est une grosse bête. Mais enfin, ça a quelle tronche, un éléphant ?» Et comme ils ne voient pas, on leur dit, ben, venez toucher l'éléphant. Donc, les aveugles arrivent et ils se mettent autour de l'éléphant. Alors, dans l'histoire, je crois qu'il y en a 6 aveugles. Alors, on va simplifier, hein, parce que sinon, c'est trop long. Mais disons qu'on va en prendre 4. Il y a un aveugle qui se met à toucher le flanc de l'éléphant. Et lui, il voit une surface plane, en fait, à peu près. Et il dit, ben, moi, je trouve qu'un éléphant, ça ressemble à un mur. Puis celui d'à côté, lui, touche la patte. Il dit, ben, moi, je trouve qu'un éléphant, ça ressemble plutôt à un arbre. Et puis celui qui touche la queue, il dit, ben, je suis désolé, je comprends pas ce que vous dites. Pour moi, ça ressemble à une corde. Et celui qui touche la trompe lui dit, bah, écoutez, moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un serpent, etc., etc. Et en fait, chacun de ces individus, il détient une partie de la vérité et il approxime de façon la plus rationnelle possible, en ramenant à ce qu'il connaît déjà, cette partie de la vérité. Et donc, chacun nous donne une approximation plutôt bonne, et quand on fait la somme de ces approximations, on n'a aucune idée de la tête d'un éléphant. Aucune idée. Et ben aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement pertinents dans tous les domaines, et quand on fait la somme de tout ça, on n'a aucune idée de l'éléphant qui est dans la pièce, effectivement. Donc, nous avons, malgré, j'ai envie de dire, ou à cause d'eux, peut-être, tous ces gens fabuleusement intelligents sur dans tous ces domaines, hautement spécialisés pour la plupart. Oh, j'ai pas dit qu'aucun ne faisait de la systémique. J'ai pas dit qu'aucun ne reliait rien du tout à rien d'autre. Évidemment qu'il y a des ponts qui s'établissent. Mais globalement, selon moi, on passe à côté de l'éléphant tant qu'on n'a pas intégré tous les champs disciplinaires dans une méta-systémique qui est au-delà des autres systémiques, qui est la systémique du système dynamique complexe qui est composé à la fois du système Terre dans son intégralité. Le système Terre, c'est la partie sur la planète Terre sur laquelle il y a de la vie. Je ne vais pas du tout développer aujourd'hui parce que pour ça, aller voir une conf... Vous trouverez des confs de moi facilement en ligne si vous connaissez pas. En tout cas, il y a différentes dimensions dans le système Terre. Il y a la lithosphère, il y a l'atmosphère, oui. il y a la pédosphère, il y a la biosphère et il y a l'hydrosphère avec sa sous-partie de la cryosphère. Oui. Donc ça, c'est le système Terre. Et donc, c'est le système dynamique complexe composé du système Terre et de l'anthroposphère, la partie humaine. Voilà. Oui. Et les activités humaines, les sociétés humaines. Et c'est vraiment ce système-là qu'il faut considérer. Alors, on peut pas tout modéliser, c'est pas la question. Mais la systémique permet de tirer un certain nombre d'enseignements sur la manière dont le type de système complexe peut évoluer dans le temps, avec des non-linéarités, avec des exponentielles qui peuvent se mettre en place, avec des effets de rétroaction positifs, négatifs, avec des effets de rebond, des effets de retard, etc. Il y a plein de choses. Et sans pouvoir tout comprendre, on peut par contre réussir à comprendre là où on peut jouer sur le système pour éventuellement le faire évoluer, ou là où on ne peut pas.
Alors, il y a deux choses là-dessus. Premièrement, je me dis que structurellement, c'est extrêmement compliqué d'aller dans ce niveau de complexité, vu le paysage médiatique actuel, vu le temps d'attention des gens, vu le jeu politique, et que ça explique pourquoi, en fait, on n'y va pas, parce que ça impliquerait d'expliquer comment fonctionne la planète, ce qu'est un système, de parler justement du fonctionnement des systèmes complexes, etc. Les gens n'ont pas le temps de le faire. Et on y reviendra. Et probablement qu'aussi que même quand on parlait des politiques, ils ont tellement de sujets à traiter que c'est très compliqué de tout retenir. Donc c'est une première chose qui explique logiquement qu'on décide de simplifier. Et puis, par ailleurs, j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines personnes qui travaillent sur ces problématiques-là et qui arrivent à avoir une pensée systémique malgré tout et qui arrivent avec des idées telles que, par exemple, c'est la faute de la civilisation. La civilisation, si on comprend pas le système civilisationnel, on comprend pas l'impact qu'on va avoir sur la planète, etc. Ou alors, il faut bien comprendre le lien entre l'économie et donc c'est le capitalisme. Ou alors c'est le libéralisme. Ou alors, oui, ça va être. Donc il y a beaucoup de penseurs qui arrivent avec une idée qui se réclame de la systémie et qui disent, bah regardez, tant qu'on ne change pas l'économie, l'économie c'est un système complexe. Tant qu'on ne change pas l'économie, on n'arrivera pas à résoudre ça. Et donc il faut changer l'économie. Donc malgré tout, tu vois, quel
alors c'est pas contre-argument. Oui. Oui, vas-y, finis ta phrase, mais je crois que je sais.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que on a aussi tout un tas de personnalités qui prennent la parole pour dire qu'il s'agit de changer le système et qui ont un point de vue sur ce qu'il faudrait, quelle est la partie du système qu'il faut changer. Donc typiquement, on entend souvent dans les milieux écologiques que, en France notamment, tant qu'on ne change pas le capitalisme, qui est un système hyper complexe, on ne pourra pas résoudre cette crise des limites.
Bon, alors, plusieurs choses. Déjà, juste au tout début, tu as dit que certaines personnes ont une pensée systémique. Il y a plein de gens qui ont une pensée plus ou moins systémique. Et parmi les experts dont j'ai parlé, il y en a beaucoup qui ont une pensée systémique. La systémique, c'est une façon de modéliser les choses. C'est une façon de caractériser un système, les relations d'interdépendance entre les éléments du système, etc. Et ça, on peut appliquer la systémique à n'importe quoi, quasiment n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas que les gens manquent de systémique. Les climatologues, ils font de la systémique, enfin pas tous, mais un certain nombre. Non, il s'agit bien de faire la bonne systémique, c'est-à-dire d'enchasser toutes les systémiques dans la bonne métasystémique, celle du système composé de l'anthroposphère et du système Terre. Voilà, si on fait pas tout ça, à ce moment-là, on n'est pas capable de capturer la nature des enjeux et ensuite de redescendre de façon cohérente, de façon plus micro. Ça, c'est la première chose. C'est pas l'absence de systémique, c'est l'absence d'application de la systémique au bon système. La deuxième chose, c'est effectivement qu'il y a des gens qui, ouais, comme tu dis, ils ont compris qu'on ne changerait pas les choses si on n'agissait pas à tel ou tel ou tel niveau. Et il y en a certains qui en font une obsession, plus ou moins, quand je dis une obsession, c'est pas forcément un gros mot, hein. Il y en a certains qui se focalisent sur un problème. Donc, pour certains, comme tu viens de le dire, le problème, c'est le capitalisme. Il faut changer le capitalisme. Pour d'autres, le problème, c'est la mondialisation. Pour d'autres, le problème, c'est le modèle économique. Pour certains, ça va être spécifiquement la création monétaire. Certains disent 90% ou 95% de la monnaie en circulation dans le monde, elle est créée par l'émission de dette. Or, la dette porte en elle le besoin de rembourser la dette avec, actuellement en tout cas, avec intérêt. Et c'est la nature de c'est l'existence même de ces intérêts qui font que on est obligé de faire croître en permanence la masse monétaire en circulation, d'où le besoin de croissance économique, etc., etc. Donc si on change pas la nature de la manière dont on crée la monnaie, de toute façon on n'y arrivera pas. Bon, ok, d'accord. Et certains d'autres vont dire le problème, c'est la démographie. Comment?
Les nouveaux récits, les récits, les mentalités, la culture, etc.
Oui, ou les récits, voilà. Bon, alors donc écoutez, il y a plein de choses vraies. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Certains vont dire c'est la décroissance, et moi j'en suis arrivé à considérer que oui, la décroissance aurait été vachement chouette si on avait réussi à bien l'organiser. Donc je dis à la plupart de ces gens, super, vous tenez une partie de l'enjeu entre vos mains. Si vous pensez avoir une possibilité d'agir en ce sens et de faire avancer Schmilblick pour effectivement aller vers de la décroissance, pour effectivement aller vers une sortie du capitalisme, pour effectivement aller vers un changement de l'économie, du modèle économique et par exemple de la création monétaire, ou vers ceci ou vers cela, tout en faisant les choses bien, si vous pensez le faire, allez-y, je vous y encourage vivement. Moi par contre, je vais plutôt me positionner différemment, je pars du principe où tout cela va échouer. Où tout cela pourrait raisonnablement échouer. Voilà, ouais. Et comment on se prépare à l'échec? Okay. C'est pas du défaitisme. Le défaitisme serait si je concluais ma phrase par « bon, on peut rien faire, je laisse tomber ». Non, je laisse pas tomber. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais en considérant que on a un plan A, c'est-à-dire le système qui existe, et puis il y a plein de plans B pour faire changer le système. Mais moi, je suis sur un plan C qui envisage l'échec du plan A et du plan B.
Alors, je voudrais qu'on reste un petit peu là-dessus pour, peut-être en prenant des exemples, on a parlé un petit peu de la décroissance. Donc j'ai reçu déjà plusieurs personnes pour parler de ça dans le podcast. Donc La décroissance, ça identifie cette espèce de machine économique, donc comme le cœur du moteur civilisationnel, et ça nous dit que tant qu'on croit le PIB, il n'y a aucun changement de trajectoire écologique qui pourra avoir lieu, parce qu'il y a un lien direct entre l'augmentation, enfin la production de PIB et notre impact sur la planète. Et donc on se dit, bah il faut réduire la taille de l'économie. C'est en gros ça la thèse de la décroissance, et autant le faire de manière organisée plutôt que d'attendre de se prendre un mur. Donc je comprends tout à fait l'idée, mais j'ai jamais vraiment compris, moi, juste pour te rejoindre, ok, concrètement, par où ça passe dans un système mondialisé, ouvert, où personne ne décide de manière centrale, et où la croissance du PIB est fondamentale dans l'organisation de toutes les structures, quasiment. Est-ce qu'on peut prendre ça comme exemple pour essayer de déconstruire et pour comprendre ce que tu nous dis? C'est-à-dire que tu dis que le diagnostic est plutôt bon, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que il y a effectivement un lien entre la taille de l'économie et notre impact sur la planète, mais ça peut pas se mettre en place. Voilà, quels sont tes arguments?
Non, mais ça peut très probablement se mettre en place à des niveaux d'échelle, on va dire relativement limités, voilà, et ça restera des expérimentations territoriales très intéressantes, mais elles ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire que je pense que en testant la décroissance, en regardant comment on peut, et une fois de plus, quand je dis la décroissance, attention, c'est plutôt la post-croissance. C'est-à-dire aller dans un système où la croissance n'est plus l'objectif, tout simplement. Et le PIB encore moins. Et pour une entreprise, le chiffre d'affaires n'est plus la seule boussole. Mais bien vers, dans un système où certaines choses croissent, d'autres décroissent, et puis d'autres sont stabilisées, tout simplement. Et puis, donc on peut tout à fait imaginer des systèmes qui fonctionneraient là-dessus. La décroissance n'étant que une phase transitoire pour aller de notre modèle-là vers ce modèle post-croissance. Et entre les deux, il faut effectivement faire décroître globalement les flux d'énergie et de matière. Donc, on passe par une phase de contraction qu'il faut gérer en changeant le modèle économique et social. Et on peut le faire par des expérimentations. Mais par contre, on peut pas le faire pour changer le méta-modèle économique dans lequel tout le monde baigne et le méta-modèle social qui est au niveau des sociétés. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, tout ça pour dire que c'est pas totalement inutile. Au contraire, moi, je pousse là-dessus en mode d'expérimentation pour poser les bases d'un nouveau système demain. Par contre, là, ce que je remets en question, c'est effectivement la capacité à changer le système concrètement, c'est-à-dire à mettre en place une forme de décroissance. Mais c'est pas juste pour la décroissance. C'est-à-dire que c'est pour tout ce que on a évoqué avant et bien d'autres choses encore. Tous les grands changements de système vont être très compliqués, pour ne pas dire impossibles, à partir du moment où certains éléments de ce système sont aujourd'hui quasi planétaires, en tout cas mondialisés. Et donc effectivement, à partir du moment où on a un problème à l'échelle 1, on va dire, c'est-à-dire l'échelle principale, la grande échelle, l'échelle vraiment mondiale, et où les leviers dont on dispose pour jouer sur ce problème sont des leviers de rang inférieur, des leviers de niveau 2, des leviers de niveau 3 ou 4, c'est-à-dire au niveau individuel, au niveau collectif et au mieux au niveau international, mais souvent c'est national, et des fois quelques pays, et c'est pas possible, ça marche pas. Il est quasiment impossible de changer un système si les leviers sont des leviers de rang inférieur. Voilà, ça c'est une des choses qu'on peut déduire de l'analyse systémique. Donc, oui, vas-y, je t'écoute.
Non, j'essaie de comprendre en fait... pourquoi tu penses que il n'y a pas de possibilité de changer le système dans son ensemble de manière concrète? Parce que par exemple, quelqu'un qui va dire, ok, faut changer le système économique, faut décroître, faut sortir du capitalisme. Il y a des idées qui vont émerger de ça et qui vont dire, bah voilà comment concrètement il faudrait faire. Il faudrait se mettre d'accord sur tous ensemble sur des nouvelles règles, etc. Ou alors ça passe par comme on commence par faire des petites choses, comme changer les règles comptables, et puis après on discute et on met d'autres indicateurs, et donc il y a une espèce de plan, même s'il est un peu vague, peut-être parfois un peu naïf, mais je voudrais comprendre ce que tu vois concrètement qui fait que ces choses-là ne peuvent pas être mises en place actuellement. Voilà.
Alors déjà une chose.
Qu'est-ce qui bloque?
Je n'ai pas dit que ça ne pouvait pas. J'ai dit que c'était hautement improbable. Et c'est une grande différence. Ma posture ne consiste pas à dire « c'est impossible ». Ma posture consiste à dire « il est probable qu'on n'y arrive pas, il faut donc se préparer au cas où on échouerait ».
Alors pourquoi est-ce que c'est hautement improbable pour bien comprendre justement les blocages?
Ok. Maintenant, pourquoi c'est hautement improbable? Eh bien, j'explique. Le système, parmi des systèmes dynamiques complexes, il y a plusieurs façons génériques, on va dire, qu'on constate à chaque fois d'évoluer. Et notamment, il y a des auto-organisations ou des auto-réorganisations ou une homéostasie ou un voilà, ça peut prendre différentes formes et différents mots. C'est pas exactement les mêmes concepts, mais ça se ressemble. Globalement, le système va s'auto-maintenir. Et en l'occurrence, c'est un système où il y a des choses qui sont, je vais dire, des lois de la physique, des lois de la nature, et puis il y a des décisions humaines. Donc, ce sont des choses évidemment très différentes. Et puis, il y a des effets de groupe. Évidemment, dans les décisions que l'on peut prendre, en fonction du niveau de la décision, c'est-à-dire est-ce que c'est un collectif citoyen qui prend la décision au niveau d'un village, ou est-ce que c'est un chef d'État ou un groupe de chefs d'État qui prend une décision, évidemment, on n'a pas le même impact sur le monde. Et puis ensuite, il y a la nature, évidemment, des décisions, leur ambition et leur nature. Certaines décisions sont beaucoup plus potentiellement basculantes que d'autres. C'est-à-dire, je peux changer des pans plus ou moins grands du système. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des grands changements qui ne pouvaient pas avoir lieu. Cela dit, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de résistance au changement, beaucoup de verrouillages, des verrouillages explicites, d'autres plus implicites. Et qu'il y a aussi une autre, d'autres choses, c'est que même quand on prend des bonnes décisions, d'ailleurs, il peut y avoir des effets rebonds qu'on n'a pas anticipés, il peut y avoir des... Et donc, des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Même en faisant même advenir certains changements qui ont l'air bons, on se rend compte a posteriori que les effets de bord ou les corollaires de ce changement sont des fois le remède est pire que le mal. Pas toujours, hein, mais ça peut arriver. Bon, donc je dis juste une fois de plus, c'est pas pour à chaque fois regarder ce qui ne va pas, mais c'est pour dire il y a plein de choses qui potentiellement peuvent gripper la machine, même quand on a les bonnes intentions et même quand on a un pouvoir décisionnel. Une fois que j'ai dit tout ça, ce que je pense, c'est que parmi les décisions qui sont prises, il y en a de deux natures essentiellement. Celles qui ne changent pas grand-chose. Quand je dis change pas grand-chose, attention, ça peut changer des choses importantes pour beaucoup de gens, mais ça change pas le système. D'accord? Donc ça veut pas dire qu'il faut pas les prendre, ces décisions-là. Si elles vont dans le bon sens, c'est toujours ça de prix. Et puis il y a les décisions qui pourraient vraiment changer le système, qui pourraient vraiment changer les règles du jeu. Et là, on commence à toucher à quelque chose d'important. Et mon avis, c'est que, c'est marrant, mais ces décisions-là, qui pourraient vraiment changer les règles du jeu du système, ah ouais, je suis sûr qu'elles passeront pas. Je suis sûr que celle-là, comme par hasard, les autres, elles vont peut-être passer, mais celle-là, elles passeront pas. Dès qu'on est sur un truc vraiment basculant, là, comme par hasard, ça passera pas. Ou alors, ça va passer, mais après, les gens vont réaliser, ah ouais, mais en fait, ça change beaucoup de choses, ça. Ah, mais ça change les rapports de force installés, ça. Ah, mais ça transforme certains qui étaient gagnants en perdants, ça. Ben, ça, c'est pas possible. Et donc, il y a des forces de résistance qui vont se mettre en place, des forces de rappel. Il y a des gens qui vont commencer à dire, l'écologie, ça commence à bien faire. Il y a des gens qui vont commencer à dire, non, mais écoutez, ça va, c'est allé trop loin maintenant, donc il faut revenir en arrière. On a des porte-parole d'une certaine vision de l'agriculture qui commence à dire que c'est bon, on a fait suffisamment d'efforts et qu'il faut maintenant alléger les contraintes sur le travail alors qu'on a fait que 5% du trajet, etc. Donc, comme par hasard, ça marchera pas. Voilà. Une fois de plus, hein, on ne peut pas démontrer que c'est impossible. Certaines décisions ont plus d'impact que d'autres, mais on ne peut pas non plus démontrer que ça va se produire. Et vu les enjeux, il s'agit juste en l'occurrence de préserver l'habitabilité de la planète Terre, hein. Vu les enjeux, on n'a pas le droit de ne pas avoir un plan B, et même un plan C et un plan D. Voilà.
Ouais, on va y revenir, mais je vais rester un petit peu là-dessus, parce que on parle de solutions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur propre diagnostic du problème, et notamment, on a énormément parlé du climat, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, et on parle de pollution plastique, on parle de plein de choses, et il y a beaucoup de gens qui dans leur coin se bougent, que ce soit au niveau enfin il y a plein de types d'organisations, y compris des entreprises, pour essayer de trouver des solutions pour résoudre typiquement la pollution plastique, pour résoudre voilà tout un tas de choses, pour essayer d'innover, d'inventer des nouvelles manières de faire. Toi, tu dis qu'en fait c'est s'adresser aux symptômes, c'est essayer de soigner le symptôme, et que ça peut être potentiellement contre-productif. Je voudrais que tu développes cette idée pour qu'on puisse commencer à réfléchir à, ok, est-ce que quelqu'un qui est en train d'essayer de s'attaquer à un problème de manière très concrète, en levant des fonds, en investissant, etc., se plante? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que c'est contre-productif? Okay. Est-ce que tu peux...
Non, alors contre-productif, ça dépend, mais effectivement, là, dans l'exemple que tu prends, c'est un peu un contre-pied. Si tu as de la pollution plastique ou autre d'ailleurs qui s'accumule à un endroit, ce n'est jamais contre-productif que de nettoyer. Voilà. Par contre, effectivement, si tu ne réussis pas à jouer sur le robinet, sur la source de la pollution, ben tu vas écoper toute ta vie, quoi. Tu vas essayer de lutter, et au final, c'est vain, quoi. C'est une course ingagnable. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. Donc moi, effectivement, ce que je dis, pour revenir à ça, pour la différence entre s'attaquer véritablement au problème ou s'attaquer uniquement aux symptômes de ce problème, ça c'est quelque chose qui est fondamental, que je développe plus là dans les confs. Donc ceux qui me connaissent pas encore, allez voir la vidéo d'une de mes confs. Récente, si possible. Et puis, pour qu'elle soit à jour. Et puis, vous verrez ce que je raconte à cet endroit-là. Mais globalement, quand même, j'explique le concept. Nous avons effectivement aujourd'hui un problème de dépassement des limites planétaires, qui est multidimensionnel. Attention, je précise aussi que les limites planétaires, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas de la systémique. C'est multi-silo, c'est multidimensionnel, mais c'est toujours pas de la systémique, hein, parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui là-dedans, disant nous on fait de la systémique parce qu'on est multidimensionnel dans notre approche. Oui, mais c'est pas de la systémique. C'est ce qui est systémique est nécessairement multidimensionnel, mais le contraire n'est pas vrai. Bref, mais globalement, on a des limites planétaires qui sont dépassées à tous les niveaux, que ce soit au niveau du climat, au niveau des sols, du cycle de l'eau, du cycle des nutriments, ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques notamment. On a des pollutions qui explosent, etc. Et donc, à tous ces niveaux-là, toutes ces choses-là et toutes les choses que j'ai déjà vaguement évoquées juste avant, ce sont effectivement des symptômes du fait que notre civilisation, comme je disais, est une machine qui convertit la nature en déchets. On prend et on prend trop et trop vite. On transforme, on détruit trop et trop vite et on génère des déchets et des pollutions trop et trop vite. Souvent, je prends comme exemple la chose suivante. Parmi les déchets et les pollutions, ils sont de trois natures. Enfin, il y a trois types de choses. Il y a des gaz, des liquides, et puis des solides, et parmi les gaz, on a des gaz qui détraquent le climat, qui sont des gaz à effet de serre, et le changement climatique n'est qu'un des multiples symptômes de ce problème-là. Mais c'est pareil pour tout le reste, ce sont des symptômes. Bon, et alors là, pourquoi c'est très différent, effectivement, de s'attaquer aux différents symptômes ou de s'attaquer à la maladie? En fait, c'est pas la même chose. C'est que, donc là c'est pareil, hein, confère mes confs, mais je vais quand même utiliser cette métaphore que j'utilise régulièrement. Je fais une métaphore qui est pas très glorieuse, hein, mais qui est relativement claire. Imaginons que vous ayez des maux de crâne, imaginons que vous ayez des problèmes de peau, imaginons que vous ayez des problèmes de digestion également. Bon, mais si vous avez envie de traiter ces différents problèmes en tant que problème, ben il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Donc pour les maux de crâne, il y a du paracétamol. Pour les problèmes de peau, il y a de la pommade. Pour les problèmes de ventre, il y a une tisane. Et donc, vous avez l'impression que vous avez des gens qui travaillent sur les différents problèmes et vous avez des gens qui sont capables de vous proposer différentes solutions. Voilà, il y a des gens qui ont travaillé sur le développement de cette pommade, par exemple, pour les problèmes de peau. Puis vous êtes allé voir un spécialiste, un dermato, qui vous a dit « ça, c'est la bonne solution pour votre problème ». Et puis, c'est pareil dans l'autre silo, le silo ventre. Vous êtes allé voir un gastro-entérologue qui vous a dit « ça, c'est une tisane spéciale qui a été mise au point par des gens spécialisés, c'est parfait pour vous ». Bon voilà, donc on a des spécialisations extrêmement poussées et on pense que par l'accumulation des solutions aux différents symptômes, on soigne quoi que ce soit. Alors ce n'est vrai que si ces symptômes sont séparés, mais s'ils ont une cause commune, si en réalité ce ne sont que différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme, alors on ne soigne pas le cancer avec paracétamol plus pommade plus tisane. Voilà ce que j'explique. Et aujourd'hui, on est précisément dans cette problématique-là. Donc maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est contre-productif de soigner de s'attaquer aux différents symptômes? Ben, ça dépend. En fait, en tant que tel, non. On va pas dire à des gens, bon, vous avez un cancer généralisé, mais surtout ne prenez pas de paracétamol pour vos maux de crâne ou mettez pas de crème sur votre peau pour les problèmes de peau. Non, ma foi, c'est très bien de traiter également les symptômes. En l'occurrence, certains des symptômes dans notre situation à nous, pour sortir de la métaphore, sont des symptômes qui sont gravissimes, qui vont nous tuer à eux tout seuls. Le changement climatique est un symptôme mortel. Donc, il faut impérativement s'attaquer aux symptômes changement climatique. Je me mets pas en porte-à-faux avec les gens qui disent qu'il faut faire ça, bien évidemment. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un des symptômes. Et donc, traiter les différents symptômes peut être absolument vital. Pour autant, c'est dérisoire si on ne soigne pas aussi la maladie. Et la maladie, je viens de le dire, hein, c'est on prélève trop vite, on transforme trop vite, on pollue trop vite. Donc tant qu'on est dans un système productiviste, croissanciste, etc., effectivement, il y a une accélération des flux d'énergie et de matière qui est incompatible, qui va accélérer et aggraver la maladie. Donc on aura beau traiter les différents symptômes ou essayer de les traiter, c'est une course vaine. Et là où je dis que ça peut être contre-productif, c'est là que c'est un peu sioux, c'est que traiter les différents symptômes, une fois de plus, n'est quelque chose en tant que tel, on pourrait dire, c'est pas contre-productif. Mais c'est pas contre-productif si on soigne la maladie aussi. Si le fait de s'attaquer aux différents symptômes nous fait croire qu'on tient le bon bout, nous fait croire qu'on va réussir à guérir la maladie de la manière suivante, alors on se trompe fondamentalement et ça nous empêche de soigner la maladie. Donc là où c'est contre-productif, c'est pas de le faire, c'est pas de soigner, de traiter les symptômes, mais c'est d'avoir pas compris que l'addition des traitements symptomatiques ne s'agrégeait pas en une thérapie pour la maladie. C'est de le fait de ne pas avoir compris qu'on ne résoudrait rien simplement en traitant les symptômes. Tant qu'on l'a pas compris, eh ben, c'est contre-productif puisque ça nous empêche de faire ce qu'il faudrait faire. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je vois dans la somme de toutes les meilleures idées qui circulent sur ce qu'il faut faire pour traiter les différents symptômes, donc issus des plus grands spécialistes, je vois l'ensemble de tout ça comme une forme de maladaptation. À court terme, c'est mieux, puisque ça permet de soulager certains symptômes à certains égards, mais à plus long terme, non seulement c'est vain, mais en plus ça nous aura empêché de traiter, de changer véritablement ce qui doit être changé, en tout cas au moins de le comprendre. Je dis pas que ce serait facile à faire, mais au moins de comprendre qu'il faudrait faire ça. Ça nous aveugle. Mmh. On s'imagine qu'on va réussir à résoudre, ou en tout cas à bien soulager les problèmes avec ce dont on dispose comme outil. Juste avant que tu reprennes la parole, tu vois, j'entends souvent dire les choses suivantes. Mais les problèmes, on les connaît, les problèmes. Mais on les a compris, les problèmes. Et les solutions, finalement, bon, on les a peut-être pas toutes, mais on sait ce qu'il faut faire. C'est bon, on sait ce qu'il faut faire. Donc c'est bon, ah bon, ben tout est clair alors. C'est formidable. Et donc, il suffirait de faire tout ça pour que ça résolve le problème. Mais le problème, c'est que c'est faux. Et le problème dans cette posture qui consiste à dire « mais on connaît les problèmes, on connaît les solutions », c'est de dire « ben finalement, c'est qui alors ? C'est à qui la faute ?» Parce que on sait très bien ce qu'il faut faire, apparemment, mais on le ferait pas. Alors c'est quoi ? C'est souvent la volonté politique qui manque, c'est souvent ça. Alors je dis pas que c'est pas vrai, hein. C'est sûr que la volonté politique, on n'y est pas du tout, quoi. Mais et donc, je les exonère pas du tout, hein. Mais pour autant, cette opposition de « ah, si seulement il y avait la bonne volonté politique, alors il n'y aurait plus le problème », c'est faux. Et ce clivage qui consiste à dire « c'est de leur faute, c'est la faute ». Alors après, ça peut être les dirigeants, et ça peut être les riches, ça peut être telle ou telle tranche de la société. Le problème, c'est eux. Le problème, c'est que ça clive inutilement. C'est pas productif, voilà. Donc, c'est pas constructif, je voulais dire plutôt. Voilà, bon, enfin bref. Donc il y a dans les postures que l'on a des choses qui sont utiles et des choses qui peuvent être contre-productives, effectivement. Mmh.
Je dois rester un petit peu sur ce que tu viens de dire et cette tendance qu'on a à trouver des ennemis, à pointer du doigt et à penser que il suffirait d'eux pour que le système bouge. Par exemple, on entend parfois dire que les politiques, évidemment, savent, ont bien compris, mais qu'ils ne le font pas parce que soit ils sont cyniques, soit ils sont corrompus, soit... ils ont les mains liées par d'autres intérêts, les lobbies, etc. Est-ce que, pour rester un petit peu sur cet exemple-là, est-ce que de ton expérience, tu dirais que les politiques savent, ils savent quoi faire. Est-ce qu'ils ont compris d'une part effectivement l'étendue du problème avec tout ce qu'ils ont à faire? Et puis faut se souvenir que quand on est au pouvoir, on a quand même beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de sons de cloche. Et puis quand même, ils auraient compris. Est-ce qu'ils sauraient quoi faire?
Bon, alors, là-dessus, merci de m'attirer là-dessus, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, en l'occurrence. C'est quelque chose qu'on avait vaguement évoqué, oui, effectivement, quand on en a discuté il y a quelques jours, mais globalement, il y a un gros malentendu sur cette question. Parce que on utilise des mots avec de façon simpliste, avec des raccourcis, et qui sont pas forcément toujours volontairement fallacieux, mais qui sont, en tout cas, qui permettent pas d'y voir clair. Et j'entends dire, effectivement, certains spécialistes le disent, certains climatologues le disent et le répètent, et avec les meilleures intentions du monde, je pense, et en l'occurrence, des gens très compétents dans leur domaine, c'est pas la question. Ils disent, bon, nous, les scientifiques, la communauté scientifique, on a fait le taf, on a fait le boulot. Ils ont l'information, ils savent, et ils ne font pas ce qu'il faut faire. Alors, sur la deuxième partie, ils font pas ce qu'il faut faire, je suis plutôt d'accord. Mais pour autant, dire, on a fait le boulot, ils savent, double erreur. on a fait le boulot. Non, c'est pas vrai. Chaque personne a fait le boulot de transmission de sa partie à lui. Mais les véritables messages qu'il aurait fallu faire passer, qu'il faudrait faire passer, à savoir la bonne systémique, la bonne approche et les bons verrouillages, ça, on sait pas trop. Ça n'a pas encore vraiment été fait passer comme message. Je suis désolé. Donc les messages principaux en fait n'ont pas encore été passés. On a parlé, différentes personnes sont venues parler de différents symptômes. Voilà, c'est tout. Et donc derrière, les élites et la plupart des gens s'imaginent une fois de plus que bah oui, mais on a un certain nombre de leviers pour agir sur les différents symptômes. Et si on mobilisait tous les leviers, ben ça résoudrait le problème. Voilà. Donc déjà cette idée elle est fausse. Donc les bons messages je pense n'ont pas encore été passés, puisque si on comprend que c'est faux, qu'activer les différents leviers ne résoudra rien, alors on comprend qu'il faut changer le système. Par contre, si on ne comprend pas, si on est dans une posture solutionniste où on pense qu'on a des problèmes et on a des solutions, alors on ne comprend pas la nécessité de changer le système. Et ça fait toute la différence. Donc je pense que pour l'instant, la compréhension, c'est pas un avis, c'est pas une opinion, c'est la compréhension qu'il faut changer le système, n'a pas encore été passée. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ils savent. Mais ça veut dire quoi, ils savent? Donc, globalement, ils ont eu l'information. Oui, ils en ont eu plein d'autres. Et d'autres qui sont divergentes. Donc, ils sont mêlés dans un bain permanent d'informations dans tous les sens, de choses qui sont divergentes. Et ils n'ont pas la capacité de s'y intéresser, d'y passer du temps, parce qu'ils sont des gens, ce sont des gens submergés. On parle des décideurs, là. On parle des gens d'un certain niveau. On parle aussi, désolé, des journalistes. Les journalistes font aussi partie de ces professions qui sont noyées dans un flux informationnel permanent de plein de choses. Et il leur est difficile donc de passer vraiment du temps, à quelques exceptions près, sur les différents sujets en profondeur. Et il leur est difficile de hiérarchiser les informations entre elles. Certaines informations devraient remettre tout en question. En l'occurrence, ils savent pas parce que, voilà, ils sont noyés dans un bruit, une fois de plus, informationnel et idéologique de surcroît. Qui est permanent. Donc, c'est pas parce qu'ils ont eu l'information à un moment donné que, un, ils l'ont retenu, que deux, ils l'ont comprise, que trois, globalement, ils vont en retirer les bonnes. Donc, le fait de dire, on leur a expliqué, donc ils savent, mais non, c'est faux. Donc, il y a une autre dimension là-dedans, c'est que, les politiciens, de la même manière que les journalistes, comme je disais, sont soumis à énormément de flux d'informations et d'avis et d'opinions, et ils n'ont pas la bonne formation, déjà, à la base, hein. La grande majorité d'entre eux n'ont pas une formation scientifique, avancée qui leur permet de comprendre l'intérêt et la valeur ajoutée unique qu'a la démarche scientifique. Donc, ils savent pas gérer et organiser, en fait, toutes ces informations, toutes ces pensées, en un système cohérent. Ils vont, comme beaucoup de gens, prendre ce qui les intéresse, prendre ce qui fait déjà écho, en fait, à ce qu'ils pensent, ou ce qui les avantage. Mais même sans calcul, de manière générale, les gens, ils ont en tête déjà un certain nombre de sujets, de centres d'intérêt, de façons de voir le monde. Ils ont comme une arborescence dans la tête avec différentes thématiques et différents tiroirs. Quand tu leur donnes une information qui rentre dans un des tiroirs qu'ils ont déjà, ils peuvent la mettre dedans. Mais quand tu donnes une information qui remet en question la manière dont ils ont structuré leur vision du monde, la plasticité cérébrale que ça demande est absolument monstrueuse et la plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Donc il y a tout un, c'est pas parce que tu as l'information que tu comprends. Voilà, il faut bien prendre en compte ça. Et ensuite, dernière chose, c'est que aujourd'hui, les scientifiques, de manière générale, il y a évidemment des exceptions, et même les porte-parole de la communauté scientifique, qui sont des gens qui sont choisis pour leur haute compétence dans le ou les domaines dans lesquels ils interviennent, ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des négociateurs, ce ne sont pas des diplomates, même si des fois certains d'entre eux, à travers les COP par exemple, ont appris à gérer des choses de façon diplomatique, mais malgré tout, ils sont pas bons. Ils partent du principe que si on explique les choses et si les gens en face savent et comprennent, alors ils vont bouger, ils vont changer. Mais ça c'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. C'est quasiment jamais le cas. Et ça, on le sait. Et c'est ça qui m'enquiquine un petit peu, pour pas dire plus, hein. Ça m'emmerde franchement. Voilà. Ça, on le sait depuis des décennies, depuis au moins 60, 70 ans. Donc, lorsque tu as en 72, je crois, Elliot Aronson qui publie ce bouquin, qui est un bouquin, un bouquin fondamental hein, en psychologie, qui s'appelle l'animal social, The Social Animal, à l'intérieur duquel il explique bien que l'homme n'est pas un animal rationnel qui adapterait ses décisions à ce qu'il comprend du monde. Et si jamais tu lui fais comprendre qu'il doit faire évoluer sa vision du monde, alors, logiquement, il va faire évoluer aussi sa manière de faire. Mais non. L'être humain n'est pas un animal rationnel. C'est un animal rationalisant qui est amené à faire des choses et à rationaliser a posteriori ce qu'il a fait en faisant évoluer sa vision du monde. Ça passe toujours par l'action et pas par la compréhension. Juste un truc. Quand tu vois des... Après, je te laisse parler, bien sûr. Quand tu vois des porte-paroles, certes, voilà, compétents, une fois de plus, dans leur domaine, ça, c'est pas la question, qui prennent la parole, c'est quoi leur but? C'est d'expliquer les choses. 9 fois sur 10, c'est expliquer. Ils pensent qu'en expliquant, ça va suffire. Non, il faut être beaucoup plus incisif que ça. Il faut savoir engager le changement. Et pour engager le changement, ben, d'une part, il faut avoir des... En fait, ils n'ont pas les compétences pour le faire, ni en communication, ni en rhétorique, ni en storytelling, ni en négociation, ni en théorie des jeux, parce que c'est important, ni en phénomène ou en processus d'intelligence collective, ni en stratégie, ou en diplomatie, ou les deux souvent. Le marketing des idées, comment tu fais qu'une nouvelle idée accroche, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, la plupart d'entre eux en tout cas. Les tactiques d'influence, ils connaissent pas. La sociologie des mouvements sociaux, ils connaissent pas. Les sciences cognitives, tout ce qui est biais, rejet, repli, déni, tout ça. La psychologie de manière générale, notamment la psychologie de la remise en question, c'est un truc bien spécifique. La psychologie du passage à l'action, c'est un truc bien spécifique. Tout ça, ils connaissent pas. Ils sont pas aussi bons qu'un bon lobbyiste industriel. Pourquoi diable compte-t-on sur ces gens-là pour faire la communication si le but, c'est de changer les choses? Si le but, c'est d'expliquer, ils sont très bien. Mais si le but, c'est de changer les choses, ils savent pas le faire. C'est pas la même chose. C'est pas le même objectif. Et quand ils vont à des rendez-vous avec des décideurs, ou quand ils donnent des formations pour des journalistes et qu'ils sont dans une posture d'enseignant, de professeur, mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que ça va changer les choses? Mais non, on le sait que ça changera rien. Quasiment rien. Il faut être dans une posture d'agent du changement, et ça demande des compétences totalement différentes. Ça n'exclut pas les leurs, ça doit intégrer les leurs. Donc en général, enfin, je vais te faire une très rapide analogie, après j'arrête de parler là-dessus, mais globalement, moi j'ai travaillé en cabinet de conseil, alors c'est une expérience bien spécifique, évidemment c'est une analogie qui a ses limites, mais malgré tout, peut-être que tu comprendras, toi, parce que toi aussi t'as été dans un monde d'entreprise assez cadré finalement. Bon, on a une exigence de rigueur dans la méthodologie, j'ai l'impression, dans une entreprise, pour signer le moindre contrat, qui est supérieure à l'exigence qu'on se met aujourd'hui pour changer et sauver le monde. Enfin, c'est un truc de dingue. Dans une entreprise, lorsque tu essaies de vendre quelque chose à un client, quoi que ce soit, un nouveau projet, une solution quelconque, un produit, quand tu essaies de lui vendre quelque chose, qui c'est que tu envoies? T'envoies le spécialiste du produit? Non, t'envoies un commercial. Avec tout ce que ça implique de mauvais, hein. Les commerciaux sont pas forcément tous des gens mauvais, mais il y a évidemment un stéréotype qui circule. Donc, l'idéal, lorsque tu as face à toi quelqu'un qui a l'aptitude de comprendre la technique, c'est d'envoyer un technico-commercial. Quelqu'un qui a à la fois la connaissance du produit, de ce que tu as à vendre, de la partie scientifique et technique, et à la fois l'aptitude commerciale. Mais t'as pas toujours ce mouton à 5 pattes. Et donc, quand tu es dans des situations où tu essaies de vendre quelque chose de complexe, qui est ancré dans beaucoup de sciences ou de techniques ou les deux, et que tu veux convaincre quelqu'un d'en face, tu envoies un binôme. Tu envoies en binôme le spécialiste technique et un bon commercial qui maîtrise tout le reste. Voilà. Et donc, en l'occurrence, pour finir, donc, nous avons aujourd'hui des gens qui sont uniquement des experts techniques et qui s'improvisent pour essayer de convaincre des gens de changer, que ce soit des décideurs politiques ou tout à fait autre chose, ou le commun des mortels. Et non, ils sont dans une posture professorale qui n'est pas la bonne pour engager le changement. Il faudrait organiser, ça c'est une perche que je tends, il faudrait organiser des binômes, à minima, entre ces gens qui maîtrisent très bien le fond et d'autres personnes qui sont plus dans une posture de communicant, mais de bon communicant au sens bon vulgarisateur, bon médiateur scientifique, mais qui ont aussi une dimension de négociateur et de diplomate, et qui peuvent faire l'interprète entre leur langage à eux et le langage des gens en face. Voilà.
Ok. Une citation qui va dans ton sens de Proust, hein, pour te dire que c'est un peu plus vieux que ça. « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci. Ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir, et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu et du talent de son médecin. » Donc voilà,
on sait
pour
pas,
convaincre,
merci.
Pour voilà, du côté de chez Swan, qui montre effectivement, nous sommes pas tout à fait nous sommes des êtres de croyance et de raison, etc. Plutôt que de raison. De rester un petit peu là-dessus, sur ce qu'on va dire les stratégies de communication, il y a plusieurs aspects. Alors d'une part, par rapport à ce que tu dis, il y a un paradoxe, enfin, c'est-à-dire on est un peu coincé, puisque d'un côté, on se dit qu'il faut expliquer la complexité des choses, la systémie, les liens qu'il y a entre toutes ces choses-là, et de l'autre côté, on se dit que bah, il faudrait trouver les arguments pour convaincre, tel un commercial, et ça passe, on le sait, par de la simplification. Ça passe par de l'émotion, ça passe par aller toucher avec des images, des idées extrêmement simples, surtout à l'heure actuelle où il n'y a plus que la punchline qui va être retenue pour 10 secondes sur TikTok ou Instagram. Donc c'est extrêmement compliqué de parler de complexité, de systémie, et donc on arrive aussi avec des arguments souvent qui sont imparfaits, puisqu'on va être obligé de prendre des raccourcis. Par ailleurs, il y a quelqu'un, quelqu'un en France comme Jean Covici qui fait ça extrêmement bien, qui use de la métaphore, qui utilise différents médias, qui est passé par la BD en se faisant aider, et qui a des punchlines et qui arrive à faire avancer les choses et qui aussi parle à certains politiques, à des journalistes, etc. Et pour autant, on voit que ça bouge, mais que voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je voudrais je te laisse réagir à ça.
Je te laisse finir ta phrase, mais je veux que tu précises. Tu dis, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu entends par là?
C'est-à-dire que globalement, les opinions ne changent pas en masse et chacun reste dans ses idées parce que effectivement, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de résistance pour convaincre quelqu'un de quelque chose et encore plus pour le persuader, c'est-à-dire le pousser à agir, parce que on est pris dans un système. On a nos idées, on a notre culture, et puis on a notre quotidien, et puis ça voudrait dire qu'il faut qu'on passe du temps sur ces sujets-là qui sont complexes, et que on commence derrière pour changer les comportements à faire tout un tas de choses qui sont perçues comme étant des sacrifices, travailler sur soi, réfléchir à ça. Enfin, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc déjà, il y a un problème de communication. Tu l'as dit, tu l'as parlé. Là, je te parle du citoyen lambda qui va réfléchir à ces sujets-là. Le politique ou le chef d'entreprise est pris dans une masse d'informations encore plus importante qu'une personne normale, entre guillemets, qui n'a pas ces responsabilités-là. Donc, on voit que c'est extrêmement difficile pour des personnes en position de qui ont des gros leviers de se convaincre qu'il faut changer dans tel ou tel. Sur tel ou tel sujet, parce que ça prend du temps, parce que c'est prendre de risques, etc. Alors, je vais te laisser réagir à ça, mais j'ai aussi une autre question qui est liée à cette idée de complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, dans toute cette rhétorique, en fait, écologique, il y a aussi quelque chose qui a émergé, qui est l'idée d'intersectionnalité des luttes.
Oui.
C'est-à-dire que tout fait système, tout est lié, et que finalement, l'écologie doit évidemment être féministe, décoloniale, antiraciste, bref, si je caricature, on peut parler de woke. Et donc, ça vient encore plus complexifier la chose, entre guillemets, et ça vient aussi heurter des sensibilités de certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle représentation du monde, qui se verraient bien écolo, mais qui finalement ne sont pas si féministes que ça, ou etc., etc. Et ça donne l'impression que c'est tout ou rien, ou voilà, que justement, il faut forcément penser un système. Est-ce que c'est pas aussi, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette posture-là? Est-ce que c'est pas aussi cette espèce de grand bazar sur lequel personne n'est d'accord? C'est-à-dire, même parmi les écolos, il y a différentes tendances, il y a différentes manières de présenter les choses, il y a des luttes internes qui font que quand on est extérieur au truc, on dit, oh, attends, on me demande de changer, mais je vois même pas ce que vous proposez comme, c'est quoi? On parle de quoi?
Bon, ok. Alors, plein de choses, dans ce que t'as dit. J'ai peut-être,
plein de choses sans question, d'ailleurs.
Revenir
t'as remarqué.
Revenir un petit peu en arrière. Déjà, il y a énormément de dissonances cognitives dans cette société parce qu'il y a des gens qui portent des discours très différents, de manière très différente, et on a des informations, des signaux très différents. Ça induit des dissonances. Et la manière dont le cerveau humain spontanément réagit à ces dissonances, le plus souvent, c'est que, dans un premier temps du moins, il met en place des sortes de déni, voilà, des différents types de déni. Et le déni est extrêmement présent sous plein de formes. Voilà. Et en plus, il vient se mélanger à l'idéologie. Alors, l'idéologie, c'est un mot générique, hein. En tout cas, à la vision du monde qu'ont les gens. Donc, les gens, bah, il y a très peu de gens qui sont totalement neutres sur tout, hein. Je sais même pas si c'est possible. Donc, on est plus ou moins baigné dans une idéologie ou une autre. Et donc, le déni va s'orienter également vers ça. C'est-à-dire, ça va colorer le déni. Donner une connotation au déni spécifique chez chaque individu. Par contre, justement, tout à l'heure, on parlait, je vais pas repartir trop là-dessus, hein, t'inquiète pas, mais on parlait sur le fait qu'ils savent, ils savent pas. Bah, des fois, on entend dire, ouais, en fait, ils savent, mais ils sont dans le déni. Ça veut rien dire, ça. Le déni est inconscient. Une femme qui est en déni de grossesse, elle ne sait pas qu'elle attend un enfant. C'est pas qu'elle le sait, mais qu'elle est dans le rejet. Non, elle le sait pas. Son cerveau lui ment, son cerveau lui joue des tours, et elle est persuadée que c'est pas le cas. Et quand on est dans un déni, il y a pas de ils savent mais. Non, ben si t'es dans le déni, t'es dans le déni, quoi. Tu sais pas. Et souvent j'entends dire, je l'ai entendu dans une interview récente d'ailleurs sur un autre podcast, que les élites là, ils savent, ils comprennent, et le niveau de compréhension est plutôt bon, mais par contre ils sont dans le déni de la gravité de la situation. Ils sont dans le déni de la vulnérabilité des sociétés. Ils n'ont pas visualisé les risques. Ils n'ont pas visualisé ce que serait une société à plus X degrés, etc. Comment peut-on dire ils savent, ils comprennent, mais ils n'ont pas visualisé la gravité, les vulnérabilités. Ben, ça veut dire qu'ils comprennent pas. Puisque si on comprend pas les risques, si on visualise pas les risques, si on comprend pas la gravité, les vulnérabilités, c'est qu'on n'a pas compris. Donc il y a aussi ce truc-là, bon, très général. Et donc pour répondre maintenant, réagir à ce que tu viens de dire, il y a tout un tas de, tu vois, sur l'intersectionnalité des luttes, ben ça clive en fait, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement prêts éventuellement à entendre une partie du propos, mais pas l'intégralité du propos, et donc ils vont se focaliser sur ce qui clive plutôt que sur ce qui rassemble. C'est souvent le problème, ça. C'est la raison pour laquelle aussi, je l'ai appris à mes dépens, lorsque tu veux faire candidature dans une élection, alors ça n'a pas été mon cas, mais moi, pour ceux qui ne sauraient pas, j'étais l'architecte du programme d'une candidate à la présidentielle en 2017, qui s'appelait Charlotte Marchandis-Franquet. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez voir, hein, le programme existe toujours. Si vous allez sur le site internet de Charlotte Marchandis et vous tapez programme, vous le trouverez. C'est un gros programme, il y a un gros travail qui a été fait, il fait 400 pages, etc. Et à côté de ça, le candidat qui a gagné, alors il a gagné pour plein de raisons, il a gagné parce qu'il avait un soutien médiatique notamment absolument énorme, mais et donc évidemment ça joue au premier plan, mais il a gagné sans programme. Il a gagné avec quelques idées forces, quelques principes, une posture, une façon de faire, enfin, plutôt, il a dit qu'il allait faire différemment, mais en fait, il n'a pas vraiment fait, il a fait surtout la même chose, mais globalement... effectivement, c'est tout un tas de choses qui sont assez abstraites finalement, et ça marche beaucoup mieux. Plus tu vas loin dans les propositions, plus tu vas loin dans tout ce qu'il faudrait faire, que tu aies raison ou pas, ne compte pas. Plus il y a d'aspérité dans ce que tu proposes, plus il y a de raisons de cliver. Voilà. Et donc le souci, c'est que l'intersectionnalité des luttes, elle est quand même assez vraie. Alors il y a toute une partie idéologique qu'on prend ou on prend pas. Mais en tout cas, c'est vrai, par exemple, que tu peux pas décorréler la question sociale et la question écologique. Et quand un gouvernement fait passer des mesures soi-disant écolo, mais qui socialement sont atroces, bah derrière, forcément, ça bloque. Et après, on en veut aux écolos, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est l'interprétation par des gens qui sont pas écolos de principes qui répondent à des enjeux écologiques. Bon, mais si c'est pas effectivement social compatible, ça marchera pas. Donc, il y a des convergences naturelles et évidente entre différents types de luttes, on est d'accord. Pour autant, moi, une fois de plus, je vois bien tout ce qui clive et tout ce qui bloque, et les verrouillages sont absolument partout. C'est une des raisons qui me fait, et j'y reviens, qui me fait me positionner différemment des autres, j'ai envie de dire. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Si, il y en a certainement certains qui sont comme moi. Je prétends pas être le seul, mais en tout cas, on est vraiment minoritaire. C'est-à-dire qu'ils cherchent pas à résoudre les problèmes ou à changer le système. Tu vois, il y a des gens qui veulent résoudre des problèmes sans changer le système. Ça, c'est les élites au pouvoir. On pense qu'on va maintenir le système, mais résoudre les problèmes, plus ou moins, avec plus ou moins d'ambition, de cohérence et d'honnêteté. Voilà. Mais globalement, en tout cas, ils pensent que c'est possible. C'est le solutionnisme, c'est souvent le technosolutionnisme. Bon. Et puis ensuite, il y a des gens qui comprennent que non, ça va pas marcher. Il va falloir changer le système. Et donc, il faut changer ceci, il faut changer cela. Voilà des idées, voilà des propositions. Il y a des choses super intéressantes, attention. Hein. Et donc, moi, je dis, il faut faire le premier, il faut faire le second. Et il faut aussi se préparer, donc, et c'est mon positionnement à moi, au cas qui est selon moi le plus probable, au cas où tout ça ne marcherait pas. Ni changer, ni résoudre les problèmes sans changer le système, ni changer le système. Ben, si tu veux, on peut aller vers ça, mais ou pas. Hein. Je suis pas certain d'avoir répondu à l'intégralité. Ouais, ouais.
Non, mais c'est
ce que tu as dit.
On pourrait passer une heure de plus en fait là-dessus. Je voudrais qu'on passe à la deuxième partie qui est après le constat.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à cliquer sur l'épisode numéro 2.